Bonsoir. Présentation samedi dernier par le Premier ministre de la feuille de route pour la mise en œuvre du programme du gouvernement congolais. Parmi les 6 secteurs concernés par cette feuille de route à réaliser dans les 100 jours, figurent notamment la défense et la sécurité, la gestion du budget et des finances, ainsi que le social et l'amélioration des conditions de vie des populations. Quelle analyse faire des priorités du gouvernement Matata Ponyo ? Nous recevons 3 invités pour en parler, François Nzekouye, député national de la majorité présidentielle et cadre du PPRD. Honorable Nzekouye, bonsoir.
Bonsoir Alain Hirong.
Jean Tati Ntsungani, membre de l'opposition et cadre du parti politique Union pour la Nation Congolaise, UNC. Monsieur Ntsungani, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Michel Nsomwe, analyste économique. Monsieur Nsomwe, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Merci comme d'habitude pour vos réactions, chers auditeurs et internautes. Malonga Koubali de Bandundouville, les priorités du gouvernement Matata sont bonnes sur papier, mais est-ce que le Premier ministre a déjà préparé les audits pour chaque secteur d'exécution de ce dit programme? Simon Siloulou de Matadioba Congo, qu'est-ce qui peut empêcher le gouvernement Matata Ponyo d'appliquer dès ce mois de juin le nouveau barème du 31 mars qui paie 159 000 francs congolais au huissier et de retraiter correctement les fonctionnaires qui ont plus de 60 ans de service aujourd'hui, épuisés, fatigués, condamnés au travail forcé malgré leur état physique improductif? N'est-ce pas là un cas social cruel et qui mérite urgence? Merci de votre fidélité et bienvenue dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081-890-66-78 ou nous écrire par SMS au 081-051-57-78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Présentation samedi dernier à la primature de la feuille de route pour la mise en œuvre du programme du gouvernement de la RDC. Elle a été faite par le Premier ministre au cours d'une conférence de presse. Cette feuille de route retrace plusieurs objectifs que le gouvernement Matata Ponyo devra accomplir. Les grandes lignes de ce programme avec vous, Askenzigba Tayoro.
Matata Ponyo tient à réaliser dans 100 jours un programme à court terme dans 6 domaines du secteur public. Son gouvernement va devoir poursuivre les réformes des institutions de la République en vue de renforcer l'efficacité de l'État. Dans les domaines économiques, il est question de consolider la stabilité du cadre macroéconomique, relancer la croissance et la création de l'emploi. Rétablir la paix dans les zones affectées par l'insécurité à l'Est est une préoccupation sécuritaire à laquelle devra s'atteler le gouvernement. À cela s'ajoute la maîtrise des effectifs de FRDC pour s'assurer de la bonne gouvernance dans ce secteur. Dans les domaines sociaux, Matata Ponyo compte accroître la capacité d'approvisionnement en eau par la régie des eaux et améliorer la qualité des services de la SNEL pour une bonne desserte en électricité. Le Premier ministre prévient qu'il va réprimer les conducteurs délinquants de bus appelés Esprit des Morts. Il annonce que le transport en commun est pris en compte dans sa feuille de route.
Le processus d'appel d'offres pour l'acquisition de bus, ce processus est déjà lancé. Nous ne voulons pas tomber dans le piège d'hier ou d'avant-hier où l'on achète des bus qui font 2 mois et le bus disparaît.
Pour Matata Ponyo, toutes les actions de son gouvernement devront être évaluées.
Au Nord Kivu, les FDLR perçoivent désormais la taxe dans plusieurs localités du territoire de Lubero. Selon les sources locales, ces combattants réglementent également les heures précises pour se rendre au champ. Ces informations sont confirmées par la société civile du Nord Kivu. Son vice-président appelle à la restauration de l'autorité de l'État dans ce coin du pays. Un reportage de Martial Papi Mukeba rendu par Emmanuel Imbanda.
L'opération actuelle est une intensification de la perception de la taxe sur habitant. Elle est instaurée depuis fin mai dernier dans plusieurs localités du territoire de Lubero. Selon des sources locales, cette taxe est perçue dans les localités de Miriki, Kasiki, Kanyasi, Bunyatengi. Il y a aussi Bouanvinwa, Viramba et Mbingi. C'est dans les chefferies de Batangi et Bamate. Selon les mêmes sources, les FDLR imposent par personne une somme de 1500 francs congolais par semaine. Ces informations sont confirmées par la société civile du Nord Kivu. Selon son vice-président, vice-président et porte-parole dans la localité de Miriki. Les rebelles FDLR réglementent même les heures pour se rendre au champ. Les paysans doivent se rendre au champ uniquement à partir des 10 heures et quitter avant 14 heures. Pour Omar Kavota, c'est la période de récolte. Les rebelles récoltent aussi dans les champs des paysans. La société civile du Nord Kivu s'est dit inquiète de cette situation. Elle demande aux autorités de rétablir l'autorité de l'État dans ces localités.
Voilà, honorable François Nzekouye, vous êtes député national de la majorité présidentielle et cadre du parti politique PPRD. Le Premier ministre annonce 6 secteurs prioritaires dans lesquels il devrait atteindre des objectifs bien précis d'ici les 100 jours. On vient de suivre la situation au Nord Kivu. Décidément, la sécurité, la défense, c'est une montagne que devra déplacer le gouvernement Matata Ponyo.
Oui, absolument. Je crois que la priorité des priorités, c'est bien la sécurité, parce qu'aucune activité économique, sociale et même politique ne peut se dérouler convenablement dans ces pays sans sécurité. Et donc, je remercie le Premier ministre d'avoir pris en compte cette donne qui nous préoccupe très personnellement, parce que cette partie de la République qui m'a vu naître, et dans une situation de guerre depuis plus de 16 ans, et il faudrait que nous prenions absolument des mesures définitives pour que cesse le bruit des bottes et que les populations de l'Est vivent en paix. Mais avant de revenir probablement en profondeur sur cette question pendant ces débats, je voudrais quand même dire que le Premier ministre a eu la bonne idée de mettre au public sa feuille de route, parce que c'est la première fois que cela s'est fait dans ces pays. Il y a eu en 2006 un programme du gouvernement qui était réservé à un groupe déterminé de personnes, pas à la portée de la population. Et cette feuille de route a plusieurs mérites. Le premier mérite de cette feuille de route, c'est que c'est un document qui s'inspire du document pour la croissance et la réduction de la pauvreté de la génération 2, qui est un document de référence pour notre pays.
Vous faites allusion au DCRP, François Nzekouye, mais le DCRP, on sait ce qu'il est. C'est un document qui est resté dans les tiroirs.
Non, pas de budget maintenant, à cet effet-là. Ce document va être mise en pratique parce que on annonce déjà les couleurs. J'ai dit, c'est un document qui a l'avantage de montrer des contraintes. La contrainte, c'est la responsabilité de chaque ministre devant la nation et qui est une obligation légale du reste, mais qui se manifeste de façon concrète avec le fait qu'il y a une possibilité d'évaluer l'efficacité de l'action du gouvernement secteur par secteur et à une période déterminée. Il a fixé l'évaluation annuelle de ce programme. Et enfin, il y a les conséquences de cette feuille de route, c'est que c'est une feuille de route qui annonce la transparence, une gestion axée sur les résultats et de la redevabilité, et en définitive une feuille de route qui doit assurer la bonne gouvernance.
Alors, pour revenir à l'aspect sécuritaire, le Premier ministre annonce la maîtrise des effectifs des FARDC, qui est une préoccupation du gouvernement, pour s'assurer la bonne gouvernance dans ces secteurs. Également, poursuivre les réformes des institutions de la République en vue de renforcer l'efficacité de l'État. Mais on sait qu'en matière de maîtrise des effectifs dans la fonction publique, au niveau de l'armée, c'est resté aussi un grand problème jusqu'à ce jour.
Non, il y a une évolution par rapport à cette question parce que nous sommes dans un processus de mise à disposition de cartes biométriques tant pour les fonctionnaires de l'État que pour les éléments des forces armées de la République que de la police. Et donc, ces cartes biométriques vont permettre une identification claire de tous les personnels de l'État et notamment dans les cas de la sécurité des personnels de l'armée et de la police. En même temps, le Premier ministre a annoncé qu'incessamment, dans la ville de Kinshasa et les grands autres centres, on va commencer par un système de paiement bancaire des éléments des forces armées et de la police, qui est un élément fondamental pour dénicher l'effectif qu'on a souvent décrié dans tous les domaines de la vie nationale et qui est une source d'évasion des recettes de l'État assez important et qui permettait malheureusement un enrichissement illicite d'un certain nombre de fonctionnaires de l'État et des officiers de l'armée et de la police. Et donc ce sont des efforts qui sont déployés et le dernier effort que je salue, c'est le déplacement des militaires monoethniques qui étaient à l'est du pays, qu'on est en train de plus en plus à déplacer pour qu'ils servent partout où la République a besoin d'eux. C'est des efforts qui vont sans doute porter de fruits dans les jours et mois à venir.
Alors on se pose la question de savoir, François Nzekouye, quelle potion le Premier ministre va-t-il utiliser pour trouver la solution à l'insécurité à l'Est, et aussi quand on se souvient comment l'Assemblée nationale a traité cette question. Beaucoup de gens ont protesté par le fait que cette question a été traitée à huis clos, alors que ça devrait être porté sur la place publique pour que le public soit au courant de ce que le gouvernement prévoit.
Oui, en fait, en parlant de huis clos, nous devons dire à la population congolaise que je n'ai jamais vu aucun pays du monde où les questions de la défense sont traitées devant la télévision. Vous imaginez que nous, les députés nationaux, nous ayons des idées pour conseiller au gouvernement sur la manière de traquer les rebelles et leur monter des stratégies là où ils se trouvent et que l'ennemi lui-même suive à la télévision ce qui se passe, en quoi nous serions efficaces. Vous imaginez, vous connaissez bien l'attitude des députés parfois, je n'ai rien à les condamner, qui cherchent les spectacles. Ils peuvent alléguer, par exemple, qu'un officier détourne l'argent des militaires qui sont au front. Quelle va être le moral de ces militaires si jamais des choses comme ça sont faites à la télévision? Je crois que c'est une attitude irresponsable de l'opposition qui a voulu les spectacles par rapport à cette question plutôt que l'efficacité. L'objectif était que les membres de l'Assemblée nationale donnent des conseils ou prennent des comptes sur la façon de gérer la crise et que nous arrivions à régler une fois pour toutes cette crise à l'Est. Ce n'était pas pour les spectacles, nous sommes désolés, et cette question se traite souvent dans des commissions dans d'autres pays du monde.
Alors, avant de donner la parole à Jean Tati Nsungani, François Nzekouye, c'est vrai que les auditeurs qui nous suivaient, les internautes, n'ont pas besoin qu'on dévoile les stratégies militaires ici à l'antenne, mais de tout ce que vous vous êtes dit, comment le gouvernement, le Premier ministre, brièvement, compte-t-il résoudre ce problème d'insécurité à l'Est?
Oui, je crois que ce n'est pas qu'il compte résoudre, nous sommes en train de résoudre l'insécurité à l'Est. Aujourd'hui, nous avons pris une option militaire qui veut que nos forces, nos vaillants combattants des forces armées qui sont aujourd'hui en train de mater les insurgés des M23 et autres qui se retrouvent dans les forêts, les Raia Mutomboki, les Cheka et autres, sont en train d'être maîtrisés pour l'instant. L'option est les militaires. Il faut une bonne gestion des ressources de l'armée. Il faut motiver les militaires en les rémunérant correctement, mais aussi il faut motiver la population congolaise tout entière à se mobiliser pour soutenir les FARDC, parce que c'est une cause nationale, ce n'est pas une petite affaire de quelques originaires d'un coin de la République. C'est une affaire qui concerne l'intégrité nationale. Et si nous n'y prenons pas garde, si la guerre persiste, les moyens affectés au développement de la nation vont être encore affectés à la guerre et nous allons reculer. Et donc, nous devons nous souder les coudes pour que vite et très vite, cette guerre finisse à l'est de la République démocratique du Congo.
Jean Tati Nsungani, vous êtes membre de l'opposition et cadre du Parti politique Union pour la Nation congolaise, UNC. Commençons par le volet défense et sécurité. Vous avez suivi la réponse de l'honorable François Nzekouye, quelle est votre analyse par rapport à l'engagement du gouvernement Matata Ponyo?
J'aimerais dire d'abord, pour rebondir tout de suite sur ce qu'a dit l'honorable Nzekouye, comme chacun le sait, c'est un ami. Mais, monsieur le journaliste, je crois que soit les problèmes sont mal identifiés, soit les responsables ne sont pas ceux qu'on devait mettre à leur place. Tenez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez que la RDC n'a plus de secret de défense. Il y a 4, pour ne pas dire 8 armées qui ont défilé sur le théâtre congolais. Et aujourd'hui, les secrets de la défense nationale du Zaïre de l'époque, du Congo d'aujourd'hui, sont à la portée de quasiment tous nos voisins. Ensuite, je souhaiterais dire ici, comment voulez-vous qu'après avoir fait des intégrations pratiquement à un rythme semestriel. On a intégré des forces, des milices, des armées, des rébellions à un rythme effrayant au point qu'on n'a plus d'armée. Il n'y a plus d'esprit de corps parce qu'on a intégré n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand. Aujourd'hui, on n'a pas, notre armée n'a pas, n'est pas vertébrée, il n'y a pas une colonne vertébrale dans cette armée. De quoi parle-t-on? Et sans compter des infiltrations. Donc, moi j'aimerais quand même rappeler à l'opinion nationale et internationale qu'il y a eu le plan de sortie de crise qui a été initié par l'Assemblée nationale. Quid de ce plan? Quid de la conférence de Goma? Quid des accords du 23 mars 2009 entre le gouvernement et les CNDP? Quid du programme Amani, Umoja, Amani Leo, Kimia 1, Kimia 2? Quid des accords de Iwusu qui ont été signés, je vous le rappelle, par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Mbuyu, avec le commandant de la police nationale, Numbi, et le chef d'état-major rwandais, ainsi que le ministre rwandais de la Défense nationale? Quid de tout cela? Les véritables causes de l'échec aujourd'hui sont à quel niveau? A-t-on identifié cela? Et l'acte d'indiscipline dont on parle à la télé du général Taganda, cet acte d'indiscipline, c'est quoi? Parce que je pense que si l'armée congolaise avait envie d'arrêter le général Taganda, on n'aurait pas annoncé cela à la télévision. On serait seulement allé l'arrêter et puis on le défère vers des juridictions appropriées. Y a-t-il des complicités internes au sein au cœur du pouvoir congolais, parce que la question est celle-là. Et quant au huis clos, moi je pense que malheureusement, le président de l'Assemblée nationale a raté une occasion quand même de se comporter en homme d'État. Mais il est un secret de polichinelle que le problème de l'Est se trouve, la solution au problème de l'Est se trouve à Kigali. Enfin, on va pas se voiler la face ici. Parce que tout part de là. Tout vient de là. La déstabilisation de l'Est, de la RDC, est faite par, ou sinon commanditée, par le Rwanda, avec des agents d'exécution à Kinshasa, notamment dans l'armée, dans le pouvoir politique congolais.
Alors, donc, Jean Tati Ntsungani, ne devrons-nous pas commencer par une introspection avant de voir que le mal viendrait nécessairement de l'autre?
Lorsque vous demandez qu'on fasse une introspection, je suis d'accord avec vous. Il faut d'abord nettoyer le parvis de sa case. Je suis totalement d'accord avec vous. Ça veut dire qu'il faut poser clairement le problème. Monsieur Bosco Taganda, au moment où nous vous parlons, il est où? Est-il sur le territoire congolais ou bien il est sur le territoire rwandais? Et puis nous voilons pas la face. Hier, on a parlé de Mutebusi, de Nkunda Batware. Ce sont des sujets rwandais. On doit quand même dire les choses telles qu'elles sont. Ou alors, on est en train de perdre le temps et aux politiques et au peuple congolais. Parce que nous savons très bien que la déstabilisation de l'Est part d'un processus qui sous-tend l'espace vital du Rwanda, un problème de minorité, de sécurisation de cette minorité, d'un problème de leadership sous-régional soutenu par les puissances occidentales, les États-Unis pour ne pas les citer. Qui ne le sait pas? On doit faire des analyses réelles et vraies. Ne nous voilons pas la face. Ne venons pas faire semblant de parler des problèmes alors que les solutions, on les connaît, alors que les causes sont connues de tous. Et d'ailleurs, les Nations Unies ont publié un rapport selon lequel il y aurait une implication quasiment avérée du Rwanda, comme ça a toujours été le cas depuis l'époque du maréchal Mobutu. Donc, moi, je pense...
Et l'honorable Nzekuya a dit que le gouvernement est en train de s'y atteler.
Alain Irung, le gouvernement Matata sera incapable. Je prends date avec vous. Incapable de résoudre ce problème si le Rwanda n'est pas impliqué. Je vous dis incapable. Parce que, souvenez-vous, quand est-ce que la déstabilisation allait se terminer? Quand le gouvernement a signé l'accord avec les CNDP, c'est ce jour-là que l'Est est devenu calme. Le 23 mars 2009, le jour où l'accord a été signé avec les CNDP, avec l'introduction ou avec une conséquence politique pour le volet politique du CNDP qui devait se transformer en parti politique, etc., comme on le sait, ce qui n'a pas été fait. Aujourd'hui, pourquoi il y a déstabilisation? On a dit que Bosco Taganda était un gage de la paix et de la stabilité à l'Est. Comment un officier congolais doit-il être un gage pour la stabilité d'une partie de la République démocratique du Congo? Cela veut dire qu'on met sous la balance l'avenir d'un tout un pays avec le sort d'un individu. Cela est inacceptable, monsieur le journaliste. Alors moi, je pense qu'on ne devrait pas ici se voiler la face, qu'on ne vienne pas perdre le temps aux Congolais en nous disant les raisons sont ici, l'armée doit être payée, mais on n'a pas d'armée. L'armée est sous-équipée. L'armée, l'effectif de l'armée, Alain, qui le connaît? qui connaît cet effectif. Et vous me permettrez, parce que vous m'avez parlé de la sécurité, de la défense, de revenir sur la feuille de route du Premier ministre. Mais monsieur le journal, là encore une fois, on parle aujourd'hui des 6 chantiers. Hier, c'était les 5 chantiers. Le ministre, le Premier ministre actuel était ministre des Finances du gouvernement sortant. Quel est le bilan de ce gouvernement-là? Est-ce qu'on nous a donné le bilan? Le gouvernement Moussitou avait une feuille de route aussi. Quelle est l'évaluation de ce... Parce que c'est quand même le pouvoir AFDEL PPRD qu'on nous dise aujourd'hui où ils en sont. Matata, c'est les choses à quel niveau?
Merci Michel Somoy, vous êtes économiste. Ça ne vous empêche pas d'avoir votre lecture sur le plan politique. Michel Somoy, Tatine Sungani, que vous venez de suivre, insiste sur le fait qu'il faut dresser un bilan de l'action du gouvernement, des gouvernements précédents sur le plan sécuritaire. Quelle est votre analyse?
D'abord, Alain, je suis congolais. Ça veut dire que être économiste, ça ne me change
pas. Ça ne vous empêche pas.
Je regarde mon pays avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt. Nous sommes tous économistes, hein, en plus de cela. Ce qui se passe à l'Est aujourd'hui, pas seulement aujourd'hui, ce qui s'y est passé hier et qui continue à se dérouler jusqu'à aujourd'hui, c'est une situation qui met en jeu, en réalité, le problème de la nation congolaise. Et par rapport à cela, ce que j'aimerais d'abord dire, c'est que le spectacle auquel les composantes politiques de notre pays nous entraînent n'est pas très agréable. Il est important qu'aujourd'hui, s'agissant de la cause de la nation, que les uns et les autres dépassent leurs égoïsmes quelque part, c'est-à-dire l'opposition et la majorité présidentielle, si ça s'appelle comme ça, je ne sais pas comment ça s'appelle encore, il faudrait que la majorité et l'opposition essayent à un moment donné de dépasser les sentiments personnels pour réaliser qu'ils ont la responsabilité de la survie de la nation entre leurs mains. Et ça, c'est très important. Pour ma part, j'ai noté avec grand intérêt que les objectifs que s'est assigné le gouvernement Matata rencontrent des préoccupations de tout citoyen congolais. Aujourd'hui, parler de la question de la défense et de la sécurité, notamment dans la partie est de notre territoire national, il n'y a personne aujourd'hui congolais qui serait heureux d'apprendre matin, midi, soir que des femmes sont en train de mourir tous les jours, que des hommes ont abandonné les champs et leurs cases régulièrement. Personne n'est heureux d'apprendre aujourd'hui qu'il y a un État FDLR, en quelque sorte, entre guillemets, qui se donne le pouvoir de lever les impôts sur le territoire national comme si on n'avait plus d'État dans ce pays. Donc personne ne peut être heureux de cette situation tant qu'on est congolais. Et là, je pense qu'il est de la responsabilité du gouvernement d'aligner tous les moyens forts pour mettre fin à cette situation. J'entends et je comprends les préoccupations de Tatine Sungani lorsqu'il dit qu'il y a déjà eu pas mal d'initiatives dans le gouvernement précédent pour mettre fin à cette situation. Et je comprends de l'autre côté aussi l'appel de l'honorable Nzekouye vers de nouveaux regards, que nous puissions regarder la réalité actuelle d'une autre façon, en croyant, en faisant, en prêtant au gouvernement Matata un minimum de bonne foi. Mais par rapport à cette bonne foi, moi ce que j'aimerais dire au gouvernement en place, non seulement c'est d'être sincère par rapport à ces objectifs qu'il s'est assigné, mais aussi de savoir que si toutes ces initiatives antérieures ont échoué, dit-on, ce n'est pas forcément parce que les gouvernements antérieurs n'ont pas été de bonne foi. Il peut se poser habituellement un problème de moyens. Et par rapport à ça, et je ne prends pas le contre-pied de Nzekouye qui parlait tout à l'heure de la sécurité comme priorité des priorités. Moi, je me dis, il faudrait qu'au départ, nous nous posions une question pour être réaliste par rapport à nos objectifs. La question, c'est laquelle? C'est de savoir combien ça devrait nous coûter la protection d'un kilomètre carré de notre territoire national, en termes de ressources humaines, en termes de moyens matériels, en termes de motivation même pécuniaire du soldat qu'il faut engager sur le terrain. Combien ça devrait nous coûter? Et cela devrait nous entraîner vers une réflexion telle que nous puissions créer de nouvelles sources de revenus, parce que c'est pas le Congo qui en manque, de nouvelles sources de revenus pour que nous puissions nous doter d'un budget conséquent, un budget responsable, qui soit à la hauteur des enjeux que nous devons, que nous sommes en train de poursuivre, à la hauteur des défis que nous devons nécessairement relever, notamment le défi de la sécurité et de la défense. Nous devrions savoir dans ce pays, et nous poser, le budget doit répondre à une question essentielle, c'est de savoir combien ça coûte la protection d'un citoyen congolais. Nous sommes à peu près, un peu plus de 70 millions d'habitants aujourd'hui, semble-t-il, mais nous devrions savoir combien ça coûte la protection d'un individu au Congo. Nous devrions savoir, par rapport au kilomètre carré, nous en sommes 2 345 000 kilomètres carrés, combien ça nous coûte. Maintenant, pour revenir à votre question sur le bilan, je pense que c'est ça, le même M. Matata l'a dit clairement lorsqu'il intervenait, la responsabilité entraîne avec elle la comptabilité. C'est-à-dire que lorsque vous avez géré, il est normal que vous puissiez rendre compte.
Alors, Michel Somoué, le Premier ministre Matata Ponyo fixe des priorités pour atteindre dans les 100 jours, des objectifs à atteindre dans les 100 jours, dans 6 domaines. Est-il réaliste?
Les objectifs eux-mêmes, en tant qu'objectifs, ils sont bons. Être réaliste, ça dépend maintenant de la quantité, excusez-moi, par rapport à chaque objectif qu'il entend réaliser. Parce que si vous parlez, par exemple, de... Revenons au problème de la défense et de la sécurité. Si nous devrions avoir, par rapport aux objectifs, savoir quel est le niveau auquel nous voudrions arriver en ayant les 100 jours. Quand nous parlons de l'emploi, nous devons être en mesure de savoir, en ayant 100 jours, combien d'entreprises sommes-nous en train de faire créer ou de créer ou de faire créer ou de, dont nous devons faciliter l'implantation au Congo, et pour créer combien d'emplois. Moi, je pense que si on parvient à quantifier clairement, étape par étape, que nous voudrions, voici le chemin que nous allons atteindre. En ayant 100 jours, nous aurons créé autant d'emplois. En ayant, au bout d'une année, nous serons à tel niveau, ça serait facile. Mais dire qu'on va éradiquer le chômage dans ce pays, j'avais entendu Mouzé le dire au stade en 1997, quand il vient de prendre le pouvoir, nous allons chasser le chômage de ce pays. Ça, je pense que c'est dangereux de faire une telle déclaration si on ne peut pas la déterminer, la délimiter, la contenir dans un critère donné.
Donc, bref, le budget sera l'indicateur le plus important pour montrer si ces objectifs seront atteints ou pas.
Absolument, et je crois que le Premier ministre l'avait aussi promis au Parlement, n'est-ce pas?
Voilà, honorable François Nzekouye, vous intervenez après cette réaction qui nous vient de Kinshasa pour vous.
Docteur Kiko, au nom de Jean-Claude, ici à Kinshasa. Je lis minutieusement la feuille du gouvernement. J'estime qu'il y a un problème d'accès aux services de base. Cette partie de feuille de route du gouvernement semble incomplète en termes d'offres de soins. Par exemple, on voudrait savoir combien d'hôpitaux seront approvisionnés en médicaments et réactifs de laboratoire, combien d'hôpitaux seront réhabilités. En termes d'organisation des services, aucune proposition n'est faite par le gouvernement. Par exemple, pourquoi l'hôpital Mamayemo ne se relève pas? Quel est le système qui devra être mis en place pour que les Congolais accèdent aux services de santé? En termes d'organisation de la demande de soins, aucune proposition de subvention de soins n'est proposée. Donc, le gouvernement doit voir plus loin.
Honorable Nzekouye.
Oui, je crois que dans une feuille de route, on ne quantifie pas nécessairement les objectifs. C'est un document synthétique et à la limite globalisant. Et donc, je crois que nous devrons attendre les budgets de l'État pour que nous puissions savoir en tranche annuelle qu'est-ce qui va être prévu dans chaque secteur. Et vous savez très bien que la feuille de route qui vient d'être présentée est une feuille de route qui va de 2012 à 2016. Ce n'est pas simplement les symboliques des 100 jours qui comptent. C'est tout un programme que le gouvernement vient de mettre à la disposition de la population de façon bien évidemment synthétique. Le programme du gouvernement est beaucoup plus élaboré que cette feuille de route que nous venons d'avoir. Et donc, il faudrait bien évidemment attendre la quantification en termes financiers et en termes quantitatifs, si vous pouvez ainsi le dire, pour voir ce qui est prévu dans le domaine de la santé. Mais je voulais insister sur une préoccupation de notre auditeur, c'est que on ne doit pas continuer à croire que l'accès aux soins de santé doit être toujours subventionné. Il faudrait aujourd'hui, et nous allons nous y mettre dans la réforme de la loi sur la santé, la création des mutuelles de santé pour que chacun puisse se prendre en charge dans une solidarité collective avec les autres mutualistes. C'est une solution qui pourra permettre un meilleur accès aux soins de santé avant d'atteindre les degrés d'assurance médicale qui exigent beaucoup plus de moyens.
Alors, tout à l'heure, Tati Ntsungani parlait de 6 chantiers, l'eau, l'électricité, le social, l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est depuis la législature passée qu'on a pratiquement la même terminologie, honorable Nzekouye. Quelles sont, d'après vous, les chances de réussite de ce programme?
D'abord, je crois que nous ne devons pas nous stigmatiser sur les termes. Je ne crois pas que Mme Dapogne parlait 6 chantiers, il a parlé des 6 priorités. Cela ne veut pas dire que c'est une exclusion d'autres secteurs. Cependant, je crois que nous devons, et ça je ne l'ai pas entendu de la bouche de mon ami Tati Ntsungani, apprécier la méthodologie de Mme Dapogne. C'est vrai que le gouvernement passé a fait une feuille de route. C'est vrai qu'il y a eu des actions. Il ne faut pas croire, je ne suis pas de cette thèse-là, que le gouvernement passé n'a rien fait. Il y a eu des évolutions qui ont été faites dans plusieurs domaines, notamment le domaine des infrastructures, dans tous les domaines, pas seulement routières, de santé, des écoles et autres. Mais je me dis, avec cette vision, parce que moi je crois que le plus important dans l'action d'un gouvernement, c'est cette ambition d'une certaine traçabilité, d'une certaine visibilité et d'une certaine redevabilité. Et donc, l'exercice que Mme Dapogne a fait de se présenter devant la presse 23 jours après son installation pour communiquer ce à quoi il s'attend d'être jugé, c'est un pari qu'on pourrait dire risqué, mais courageux, et que nous devons apprécier. Mais maintenant, nous allons lui doter des moyens. C'est à nous, les députés nationaux, quand il va nous présenter son budget, qui allons lui donner les moyens de sa politique pour matérialiser cela. Et donc, nous ne pouvons être optimistes que dans la mesure où nous sommes nous-mêmes l'autorité budgétaire et que nous allons disposer des moyens pour que la politique du gouvernement se mette en place. Et donc, je ne peux pas être pessimiste dans la mesure où je suis autorité budgétaire et je veux que les choses aillent de l'avant et nous allons disponibiliser les moyens, trouver les sources de financement de ces budgets et bien évidemment contrôler la façon dont les dépenses vont se réaliser.
Merci honorable François Nzekouye. Pour répondre aux besoins actuels de l'économie congolaise, le gouvernement a décidé de mettre en circulation les billets de 1 000, 5 000 et 10 000 francs congolais d'ici le début du mois de juillet prochain. Comment faire pour que ces nouveaux billets n'entraînent pas une inflation sur le marché des biens et services? Réponse avec le ministre délégué auprès du Premier ministre en charge des Finances, Patrick Kitebi, est au micro d'Agathe Mpona. Élément.
Sur le plan strictement technique, il y a une condition essentielle. Le volume global de la liquidité qui circule doit être en adéquation avec les besoins de l'économie. Ça, c'est la condition de base. Et donc, toutes les dispositions sont prises pour que la mise en circulation de ces nouvelles coupures ne se traduise pas par une augmentation de la masse monétaire en dehors de ce qui a été programmé pour l'année 2010. Toutes les précautions sont prises. C'est vrai, les coupures existent depuis un certain nombre d'années, mais il y avait une question d'opportunité du moment. Et là, nous estimons que le moment est très important parce qu'on a une stabilité macroéconomique qui dure depuis 2 années et il y a un vrai besoin sur le plan technique de faire l'adaptation pour le nombre de billets et la valeur des billets en circulation pour notre monnaie.
Jean Tati Ntsungani, cette décision du gouvernement répond-elle aux besoins actuels de l'économie congolaise?
Oui, absolument. Je crois que vous me posez une question technique. Je suis obligé de vous répondre en tant qu'économiste. Ça nous gêne et ça nous dérange continuer à porter par derrière nous des billets de 100 ou 150, 200 dollars parce qu'il n'existe pas une quantité correspondante en coupure de francs congolais. Je crois même que on aurait même dû penser à faire une coupure même de 50 000 francs congolais, pourquoi pas 100 000, quitte à veiller évidemment à une bonne circulation de ces masses. Je crois qu'au niveau des besoins de l'économie, moi je viens de créer une petite entreprise privée de nettoyage, je ne vais pas faire la pub, mais il nous arrive de lorsqu'on a des paiements en francs congolais, mais d'avoir vraiment d'énormes difficultés pour manipuler ces masses. Et vous avez 500 000 francs congolais, c'est plusieurs billets, surtout quand c'est en petite coupure, alors qu'avec 2, 3, 4 billets de 100 dollars, vous avez l'équivalent dans votre poche que vous pouvez mettre dans votre veston. Donc il y a un besoin réel de l'économie à ce niveau-là. Mais comme toujours, et la crainte, c'est de ne pas déséquilibrer les besoins de l'économie en termes monétaires. Et je pense que le Premier ministre, qui est un expert en matière monétaire, ainsi que le ministre délégué, savent qu'il faudrait qu'il y ait progressivement une injection de la masse monétaire qui ne vienne pas perturber l'équilibre macroéconomique qu'on a eu du mal à mettre en place. Et ici, je voudrais quand même, répondre à la remarque que m'a faite mon ami François, c'est que non, moi je pense qu'il faut reconnaître les biens qui ont été faits, parce que c'est aussi cela, être honnête intellectuellement. Dans le gouvernement passé, il y a des choses, des bonnes choses qui ont été faites, mais elles n'ont pas été assez pour changer le quotidien du Congolais. Je vous donne un exemple. Lorsqu'un enfant a 20%, il a échoué. S'il passe de 20 à 40%, il s'est amélioré, mais cette amélioration n'est pas suffisante pour lui permettre de réussir. C'est ce qui s'est fait dans le passé. Et là, nous avons un gouvernement qui, me semble-t-il, est composé de technocrates. Moi, j'avais tendance à dire que Matata Pone et son gouvernement sont dans un état de grâce. Donc, je suis pas très à l'aise quand il s'agit de faire un bilan de ce gouvernement à peine un mois. Mais pour revenir à cette injection des coupures, moi, je l'ai dit, le besoin en économie est là. Et lorsqu'on se réfère à l'équilibre macroéconomique, des agrégats macroéconomiques, c'est-à-dire on observe le taux de change, on se rend compte que le taux de change a été stable, dans une moyenne acceptable. Lorsqu'on regarde le taux de croissance, le taux de croissance a été à des niveaux acceptables. Lorsqu'on regarde le taux d'inflation, l'inflation a été plus ou moins maîtrisée. C'est cela qu'on appelle le cadre macroéconomique. Et si cette politique continue à être menée, il y aura moins de risques dans l'introduction de ces coupures. Mais encore une fois, monsieur le journaliste, parce que nous sommes l'opposition, nous devons aussi tirer la sonnette d'alarme. Nous ne devons pas être chaque fois défaitistes, c'est vrai. Mais nous devons aussi tirer la sonnette, parce que par le passé, chaque fois qu'on a créé des coupures de billets de banque, nous avons assisté de façon quasi automatique à une inflation qui a fait exploser les prix. Et même, pour terminer, on a vu certains hauts dignitaires de l'État avoir détenu par divers jeux des coupures avant même que les banques commerciales n'aient été approvisionnées.
Merci.
Et c'est en cela que nous allons juger le sérieux du gouvernement Matata dans l'angle. C'est le premier dossier de l'année qui nous permettra de juger de son sérieux, de sa crédibilité.
Michel Soumoué, vous êtes économiste, vous intervenez après cette réaction qui nous vient de Beni au Nord Kivu pour vous.
Gérard Kazingoufou de Beni, de la province du Nord Kivu. Les priorités du gouvernement Matata, quelle que soit l'espérance qu'elles peuvent susciter aux Congolais, mais le lancement en juillet prochain des grosses coupures en francs congolais avec l'inflation certaine qu'il va provoquer est un indice sûr du désespoir.
Réaction Michel Soumoué.
Non.
L'émission est également pédagogique, on le répète souvent.
Oui, inflation sûre liée à l'émission de grosses coupures, je dirais non. Il n'y a pas une corrélation fortement exprimée entre la valeur faciale d'un billet de banque et le niveau des prix sur le marché. Ce qui peut arriver, c'est que des attitudes des hommes liées au degré de confiance qu'ils font à l'autorité monétaire peuvent faire en sorte que certains citoyens se livrent à des activités de spéculation de nature à entraîner une flambée sur le marché des prix intérieurs. Mais ce que, grosso modo, je devrais dire, c'est que d'abord, pour rejoindre ce qu'a dit le ministre délégué des Finances, ces billets ont été en réalité fabriqués, imprimés depuis 2004. Et ils ne s'arrêtent même pas à 10 000, ils vont jusqu'à 50 000. Je ne suis pas en train de dévoiler un secret parce que c'est connu. C'est jusqu'à 50 000. Depuis 2004, la Banque centrale était préoccupée par la possibilité de mettre sur le marché ces billets de banque. Mais le gouvernement n'avait jamais autorisé. Et j'ai entendu le ministre délégué dire que c'est par opportunité. Mais là, il se trouve qu'il y a une pertinence parce que le cadre macroéconomique est plus ou moins stabilisé. Donc on peut maintenant injecter ces billets, dit-il.
Alors, Michel Soumoué, pour les auditeurs qui nous suivent, j'ai dit et je le répète, l'émission est également pédagogique. Qu'est-ce que cette injection des valeurs, des coupures à grande valeur faciale, à valeur faciale élevée va apporter sur le budget de l'État par rapport au bien-être bien-être des Congolais. Qu'est-ce que ça peut apporter? C'est une question qui préoccupe beaucoup d'auditeurs.
Je veux répondre à cette question, mais en la mettant dans... Parce que vous avez dit, c'est une émission pédagogique. J'aimerais dire un certain nombre de choses qui vont permettre de rencontrer ces préoccupations. D'abord, ce qu'il ne faut pas. Du côté du gouvernement. Il ne faudrait pas qu'on émette des grosses coupures parce que on évite le coût d'impression du billet de banque. Parce que le coût est trop élevé pour pouvoir imprimer un billet de 1 franc congolais, parce que c'est le même prix, après tout, le même coût, un billet de 1 franc congolais ou un billet de 50 000 francs congolais, ça a le même coût au niveau de la production, au niveau de sa production. Alors je pense que la raison que la Banque centrale a souvent avancé d'imprimer de grosses coupures parce que il faut tenir compte de la trésorerie de la Banque centrale est une raison dangereuse. Parce que la gestion monétaire ne permet pas cette fuite en avant. Donc ça, il faut éviter. La deuxième chose, je pense qu'il faudrait éviter, c'est de sombrer dans une sorte de sophisme. Lorsque, par exemple, l'on parle de la stabilité monétaire dans le cas qui nous concerne, c'est parce qu'on se réfère à un taux de change selon lequel un dollar américain égale à 925 ou 930 francs congolais depuis près de deux années et demie environ. Alors, en partant de là, on dit donc la monnaie s'est stabilisée et donc, puisqu'il en est ainsi, nous pouvons nous permettre ceci ou cela. Mais je pense que c'est dangereux parce que ça s'appelle, les amis qui sont moi sur le plateau savent très bien, le Premier ministre également et tout son équipage, Patrick Kitebi, ministre délégué des Finances, c'est aussi très bien. Il y a ce qu'on appelle la cotation à l'incertain, c'est ce qu'on est en train de faire, un dollar égale combien, mais il y a ce qu'on appelle la cotation au certain, parce que ce qui nous préoccupe, nous Congolais, c'est de savoir combien d'unités de monnaie étrangère nous pouvons acheter avec une unité de notre monnaie nationale. C'est-à-dire, pour être clair, se dire... Un franc congolais égale combien de dollars américains?
Alors,
c'est la cotation. Je vais répondre à cette question, Alain.
Il nous reste moins de 4 minutes, Michel Somoy. Est-ce que ça change quelque chose au bien-être des Congolais, au social, tous les 6 domaines dont a parlé le Premier ministre dépendent du budget?
Ça change beaucoup. Parce que lorsque vous avez un franc congolais égal à 0,00 dollars américains, ça veut dire que votre monnaie n'a pas de valeur intrinsèque. Et donc, les Congolais sont en train de berger dans leur poche un billet de banque qui n'a pas de pouvoir d'achat. Voilà en quoi cela affecte sérieusement le social. Si nous voulons entraîner à sortir le Congolais de la pauvreté, il faudrait que nous commencions par donner à sa monnaie une certaine valeur. Et donc, celui qui épargne dans sa monnaie a un pouvoir d'achat qui lui permettrait de se mettre de sortir sur le marché et rencontrer les autres au niveau de l'offre.
Honorable Nzekouye, il nous reste moins de 4 minutes pour terminer l'émission, donc il faut déjà conclure. Qu'est-ce que cette décision peut apporter aux militaires qui sont en train de vous suivre, aux policiers, aux enseignants? Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de cette décision?
Oui, en fait, comme on l'a dit techniquement, Tati Sungani, c'est simplement un problème de commodité. Parce que transporter une brique de billets de 500 francs congolais, quand on peut transporter 10 billets, c'est plus commode et le coût de transport est moins élevé. Les risques de dévoiler les quantités d'argent que vous avez est plus difficile et donc risque de se faire voler éventuellement.
Concrètement, pour un enseignant qui toucherait 50 000 francs, ça ne change rien, sauf qu'il a très peu de billets en poche.
Oui, pas nécessairement, parce qu'en fait, l'objectif n'est pas de changer quelque chose dans le vécu du quotidien de la population en termes d'augmentation de revenus, si c'est cela que vous voulez entendre. Mais simplement, ça change, comme l'a dit encore une fois Tati Sungani, la possibilité de mettre plus de la valeur dans un porte-monnaie que de les trimballer dans un sac. Voilà, c'est cela que ça change. Il ne faudrait pas que les gens attendent des miracles par rapport à cela. Ça ne va pas ni augmenter la valeur de la monnaie, ni la diminuer. Simplement, ça va permettre une facilité, surtout pour ceux qui traitent des grosses sommes d'argent. Et donc, voilà ce que ça change.
Alors, juste un mot pour conclure.
Pour conclure,
en ce qui concerne de façon générale le programme du gouvernement
Nous devons donner la chance au gouvernement Matata. Et la meilleure façon de donner la chance, c'est que nous devons être disciplinés dans notre collecte de l'impôt. Chacun doit payer son impôt. En même temps, nous devons soutenir notre armée pour finir avec la guerre de l'Est. Peu importe les attaques des étrangers, Merci. Si nous avons une armée forte, personne ne résistera au Congo.
Michel Somoy.
Et ce que je dirais, d'abord, en ce qui concerne le changement dont vous parlez, les amis ont parlé de la commodité pour le transport. Si cette commodité est établie, c'est que ça change de grand chose. C'est-à-dire que la mobilité du facteur capital devient de plus en plus accru, et donc ça peut accélérer le rythme des transactions et tout ce que vous voulez. Sur le plan économique, il y a une certaine amélioration qui peut se faire. Mais ce qu'il faudrait dire, c'est qu'il reste un problème capital de gestion de la structure fiduciaire de notre pays, de notre économie. Il faudrait que notre monnaie puisse se doter d'une structure fiduciaire complète et efficace, durable, comme toutes les monnaies du monde voudraient le faire.
Jean-Tatine Sombani.
Matata Ponyo a dit qu'il ne fera pas la rigueur pour la rigueur. Nous aimerions seulement qu'il se pose une question. Que demande le peuple? Et moi, je souhaiterais que pour le gouvernement Matata Ponyo, la priorité de priorité soit la construction d'un État.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Des observations, des commentaires, écrivez-nous à dec@radiocapi.net. Au revoir.